Spirituel aujourd'hui, en ce 26 décembre, le lendemain de Noël, il est temps de parler de quelqu'un qui a vraiment consacré sa vie aux enfants, aux jeunes, le vénérable Jean-Marie de Lamennais. C'est le fondateur des Frères de l'Instruction chrétienne que l'on connaît bien ici au Québec. Ils sont ici depuis 110 ans. Il a fondé aussi d'autres congrégations. Le vénérable Jean-Marie de Lamennais est né en 1780 et il est mort en 1860, un 26 décembre. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Quand je dis qu'il est mort un 26 décembre, je veux dire qu'il est entré au ciel, c'était le jour de sa grande naissance. Parce que c'était quelqu'un qui a été consacré, dévoué dès son plus jeune âge. Un homme, un prêtre extrêmement attachant. Je dédie d'ailleurs cette émission au frère Jean Laprotte qui m'a beaucoup aidé, particulièrement à mon bon ami, le frère Jules Gervais qui était missionnaire au Japon. On se trouve à Saint-Brieuc en juin 1819, c'est au nord de la Bretagne, Saint-Brieuc sur la côte de l'Atlantique, au nord de la Bretagne. On voit là deux prêtres qui ont une foi ardente, ils sont dévorés d'un grand zèle. Et ils se quittent très heureux de s'être parlé l'un à l'autre et d'avoir pris des décisions, parce qu'ils viennent de s'unir par un traité qui fonde sur des bases bien solides ce qu'ils appellent la bonne œuvre dans le langage de l'époque, c'est-à-dire cette société qu'ils vont nommer l'année suivante, en 1820, la Congrégation des Frères de l'Instruction chrétienne. L'un de ces deux prêtres, c'est Gabriel des Hayes, qui est considéré maintenant de plus en plus comme le cofondateur des Frères de l'Instruction chrétienne avec l'abbé de Lamennais. Gabriel des Hayes est un fils de paysan. Il est né, lui, en 1767, tout près de la belle forêt de Brocéliande qui fait rêver bien des gens quand ils se souviennent des contes de leur enfance. Brocéliande, c'est en Bretagne, c'est la fameuse forêt qui s'appelle maintenant la forêt de Pimpon. Si vous allez en Bretagne, allez à la forêt de Pimpon, vous allez aller ainsi à Brocéliande. Vous savez, dans les romans de la Table Ronde, là, c'est le séjour de l'enchanteur Merlin qui était retenu prisonnier. J'ai même donné ce nom de Merlin à mon beau chat qui est un enchanteur. Et alors donc, soyons sérieux, ce Gabriel des Hayes, qui est un prêtre formidable, a tout d'abord été ordonné évidemment diacre, alors que la Révolution française établit la constitution civile du clergé qui suscitera de nombreux martyrs chez les prêtres, hein, qui ne veulent pas se détacher de Rome, en fait. Et son évêque, l'abbé Gabriel des Hayes, monseigneur de Précigny, s'exile dans le sud de la France. Ben, c'est pas vraiment la France, enfin, en Savoie. Et puis, il se demande quel prélat va lui conférer la prêtrise. Alors, il s'en trouve heureusement un sur l'île de Jersey. C'est au nord de la France, en route vers l'Angleterre, ça. Et le jeune abbé Gabriel des Hayes passe donc la mer et monseigneur Lemaitier va l'ordonner en 1792, cette grande année de la Révolution, hein, 1789-1792. Et là, il revient au pays, puis il est courageux, il 100 fois, il risque la mort. Hein. Il est d'une audace insolente. C'est un prêtre courageux. Il participe à ce grand combat pacifique des prêtres pour sauver la foi des gens qui sont menacés. Et c'est un apostolat clandestin qu'il exerce. Il est toujours traqué. C'est terrible. D'autre part, le cofondateur qu'on célèbre aujourd'hui, et le principal fondateur des Frères de l'Instruction chrétienne, c'est bien Jean-Marie Robert. De Lamennais est un nom qui a été ajouté par Louis XVI au nom de Robert, son père a été anobli, hein, donc Jean-Marie Robert de Lamennais. C'est un vrai Breton. Dans son ascendance, il y a des corsaires, des colons, des armateurs, mais aussi des hommes de loi. des fonctionnaires qui sont dévoués pour la plupart au bien public. Il est né à Saint-Malo, comme Jacques Cartier, en 1780 cependant. Il a 10 ans quand ce même Monseigneur de Précigny, dont je viens de vous parler, quitte le diocèse. Avant de s'éloigner, le 16 octobre 1790, cet évêque, ému par le jeune courage de Jean-Marie de Lamennais, qui n'a qu'une dizaine d'années, lui donne la première communion, quoi, et le confirme, parce que ce jeune garçon veut le suivre avec courage. C'est absolument étonnant. Et ce jour-là, le jeune garçon entend l'appel, il va être prêtre. Il survient finalement dans le décor à Saint-Malo, un monsieur Le Carpentier, qui est un représentant sinistre de ce qu'on appelle la Convention. C'est l'Assemblée qui siège 3 ans, là, puis qui va abolir la royauté, qui va proclamer la République, qui juge et condamne à mort Louis XVI, qui réduit la révolte des Vendéens, qui établit finalement le régime sanglant de la terreur. Vous savez, on a tout vu ça il y a quelques années à l'occasion du 2e centenaire de la Révolution française. Alors la terreur ensanglante, la ville, on guillotine place Saint-Thomas, on fusille sur les plages et les prêtres sont pourchassés. Et Jean-Marie de Lamennais les guide vers des abris sûrs. Il leur sert la messe, il se joue des patrouilles nocturnes. Il y a beaucoup d'audace et de sang-froid, hein, je vous l'ai dit. Et cet adolescent de 13-14 ans a encore plus de courage que quand il avait 10 ans. En 1795, là, il a 15 ans, la révolution s'assagit. Monseigneur de Précigny, l'évêque, par sa correspondance, puis des abbés aussi, dont le fameux abbé Enguerrand et l'autre, Picot de Clorivière, forme la conscience de ce futur prêtre, puis stimule sa piété. Il l'initie aux sciences sacrées. Puis là, le 21 décembre 1801, à 21 ans, à Paris, il reçoit de Monseigneur de Précigny le sous-diaconat. Et puis, prêtre, en 1804, à 24 ans, eh bien, Jean-Marie de Lamennais est déjà professeur de théologie, imaginé au collège-séminaire de Saint-Malo, et qu'en 1802, il a contribué à rétablir. Hein. Et son frère, le fameux abbé Félicité de Lamennais, l'y rejoint, je l'appelle déjà l'abbé. Tous deux mènent de pair, d'ailleurs, l'enseignement et l'étude de... une étude personnelle sérieuse. Et tous deux vont lutter pour Dieu, pour l'Église. Puis il y a deux ouvrages qu'ils vont écrire ensemble. Réflexion sur l'état de l'Église en France, puis Tradition de l'Église sur l'institution des évêques. Il faut dire que son frère Félicité de Lamennais aurait pu être l'un des plus grands théologiens de son temps s'il n'avait pas été condamné par le pape, à mon avis, de façon malheureuse. Et nous allons en reparler dans exactement 2 mois, au jour anniversaire du décès de Félicité de Lamennais. Mais nous parlons aujourd'hui de Jean-Marie de Lamennais. Alors voici que le séminaire succombe en 1812. Il est victime d'un décret de Napoléon. Et Monseigneur Caffarelli connaît et apprécie ce jeune abbé Jean de Lamennais. 2 ans plus tard, il l'accueille à Saint-Brieuc, au nord de la Bretagne, toujours comme secrétaire particulier. Puis à sa mort, en janvier 1815, l'année suivante, Lamennais est élu vicaire capitulaire. Il exercera ce rôle pendant un certain temps. Il a 3 collègues, un seul assez valide pour participer aux affaires. Ça lui donne énormément de travail. Parce que la vacance du siège de l'évêque se prolonge. C'est difficile de nommer l'évêque à ce moment-là. Et pendant près de 5 ans, alors l'abbé Jean de Lamennais, le futur fondateur des Frères de l'Instruction chrétienne, assume l'essentiel de la charge du diocèse. Il est presque un évêque, quoi. Il est dans la force de l'âge, en pleine possession de ses moyens, puis il donne toute sa mesure dans une action qui est réfléchie. C'est un homme tenace, hein. Il est concret dans ses vues. C'est pas un rêveur. Et puis, d'ailleurs, on le voit bien dans son livre, en collaboration avec son frère, « La réflexion sur l'état de l'Église ». Il y a une urgence qui s'impose aux deux prêtres, là, de Lamennais et des Hayes, les deux confondateurs. C'est l'éducation de la jeunesse des milieux populaires. Presque partout, constate l'abbé Jean de Lamennais, les enfants du peuple sont livrés à eux-mêmes. Ils vivent dans un vagabondage déplorable, comme bien de nos enfants maintenant. Hein. Et ils disent que c'est la source de tous les désordres et de tous les vices. Alors, nulle part en France, la situation de l'enseignement primaire est satisfaisante à cette époque. En Bretagne, c'est même consternant. Hein. Je vous rappelle, la Bretagne, c'est la grande péninsule à gauche là, sur la carte qui s'avance dans l'Atlantique. Hein, pour ceux qui se demanderaient, là, il y a peut-être 2-3 personnes. Alors, pour le taux de scolarisation à l'époque, l'Académie de Rennes, en Bretagne, se situe en cul de liste pour toute la France, imaginez. Alors, on amorce en France le redressement. Mais on prône quelque chose, c'est l'école mutuelle. C'est une espèce d'école neutre, si on veut. Un système pédagogique dont les quelques avantages compensent pas vraiment aux yeux de Lamennais les insuffisances dans le domaine pour lui essentiel de l'éducation de la foi, de la formation aux vertus chrétiennes. Il veut donner l'éducation de la foi, il veut vraiment transmettre ça, puis il veut former aux vertus chrétiennes, et c'est son grand but. Hein. Alors un point de règle des frères de cette époque, il y en avait déjà, leur impose d'être au moins 3 en communauté, ce qui les écarte des communes rurales incapables de rétribuer leurs instituteurs. Alors, l'abbé Gabriel Deshaies puis l'abbé Jean de Lamennais vont unir leurs efforts pour doter la Bretagne d'écoles de garçons et de filles qui vont répondre à leurs idées, puis aux possibilités que peut offrir une province, la Bretagne, qui est très rurale, qui est plutôt pauvre. Alors surgit la solution originale qui va résoudre le problème. Là, le père Deshaies l'imagine, puis le père de Lamennais l'adopte. C'est fonder une société d'instituteurs dont les membres pourraient être placés seuls, plutôt que 3. Prendre pension dans des presbytères, sous l'autorité immédiatement des pasteurs. Là. Et puis, ils seront payés quoi? Par les paroisses, les communes. Le budget serait évidemment un peu augmenté par des rétributions qu'ils vont demander aux élèves qui en ont les moyens. Alors, les fondations d'écoles ne tardent pas. Hein. Puis là, les nouvelles recrues ne manquent pas non plus, heureusement. Alors les cofondateurs veulent une vraie congrégation religieuse, puis ils l'organisent dès la retraite de 1820. Une quarantaine de frères et de novices sont rassemblés à Auray. Vous savez, Sainte-Anne d'Auray, je suis déjà allé là. Oh, c'est un lieu de pèlerinage à Sainte-Anne extraordinaire. Et puis les exercices commencent comme ça au début de septembre. Il y a une allocution vraiment vibrante du père de Lamennais. Et tous ces exercices se terminent 6 ou 7 jours plus tard sur un sermon du père Deshaies cette fois-là. Alors l'Institut reçoit sa devise. Quelle est-elle? Dieu seul. Quelle noblesse. Hein? Et le nom? Congrégation de l'instruction chrétienne. Et la règle est promulguée. Les retraitants la copient. Elle leur est longuement expliquée. Une cérémonie solennelle de vêture, puis la première émission du vœu d'obéissance pour 1 an, par une 20aine de frères déjà. Ça couronne cette grande retraite. On est en 1820. C'est en somme la fondation. Le vœu d'obéissance seul sera exigé du vivant des fondateurs. Alors, on obtient une autorisation légale. Le 1er mai 1822, les fondateurs la sollicitent. Et l'essentiel de l'ordonnance royale tient dans ces lignes, c'est un résumé de ce qu'ils font, et la société formée par les sieurs de Lamennais et Deshaies, dans le but de fournir des maîtres aux écoles primaires des départements composant l'ancienne province de Bretagne et désignée sous le nom de Congrégation de l'instruction chrétienne, est autorisée comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Et le brevet de capacité sera délivré à chaque frère sur le vu de la lettre particulière d'obédience qui lui aura été délivrée par le supérieur général de la dite société. C'est dire qu'on l'organise de façon très sérieuse, mais les écoles sont misérables, ce sont de pauvres maisons. C'est trop peu dire qu'elles n'évoquent en rien les grandes écoles qu'on a aujourd'hui. On a peine à imaginer une telle misère qui, en bien des cas, c'est juste d'un local paroissial ou communal, se prolongera jusqu'à la fin du Second Empire, jusqu'en 1870. Alors les frères vont travailler dans des conditions épouvantables que je vais vous décrire Alors, je vous parlais des écoles. C'est terrible, ces écoles. Vous savez, il y avait un conseiller de l'université qui s'appelait Ambroise Rendu, puis il a fait une inspection. Il écrit au père de Lamennais en 1838. Il dit, « J'ai vu par moi-même ce qu'il faut d'abnégation religieuse pour se faire maître d'école dans certains villages. » À titre d'exemple qu'on veut croire extrême, alors il ajoute, « Telle localité relègue le frère et les élèves dans une étable, d'où l'on vient à peine de retirer le fumier. Ailleurs, l'écurie qu'on leur affecte est inondée à la moindre crue de la rivière voisine. » Ou bien c'est une cave dont le sol en terre battue se transforme en boue fétide pendant les mois pluvieux. Ou encore ce local délabré, ouvert au vent et à la pluie, dont parle le fondateur, l'abbé de Lamennais, en 1855. Bien des municipalités s'accordent bien avec un sans-cœur incroyable d'une situation qui compromet la santé des instituteurs et des élèves, et plusieurs frères ont ruiné leur santé par un séjour prolongé dans des conditions semblables. Mais arrive la révolution de 1830, des temps difficiles. C'est la monarchie de Juillet qui réserve à la congrégation des frères de l'instruction chrétienne des heures très, très difficiles. Le fondateur, l'abbé de Lamennais, qui a un peu plus de 50 ans à ce moment-là, vit un drame poignant. C'est au sujet de son frère. Son frère a été censuré par le pape en 1832, puis a été condamné, excommunié en 1834. Alors son frère, qui était prêtre, Félicité de Lamennais, rompt avec l'Église, il n'arrive pas à se soumettre. Et vous allez voir comme c'est un drame, je vous raconterai ça, je vous l'ai dit dans 2 mois. C'est un drame terrible. Alors l'abbé Jean de Lamennais est même suspecté. Un article diffamatoire l'accuse de n'avoir pas, de n'avoir en somme pour les jugements de Rome qu'une espèce de soumission hypocrite et d'appuyer secrètement son frère. Mais il ne reverra plus son frère Félie, comme on l'appelle, Félicité. Étrange prénom, hein? Mais il aimait tellement son frère. 2 frères prêtres. Et d'autres ruptures vont l'atteindre aussi en plein cœur. C'est que ses petits frères, comme il l'appelle, lui sont fidèles, mais ils pâtissent beaucoup de cette situation. Il s'écrie à un moment donné, « Mon Dieu, comme tout cela est dur, ce sont des épines qui percent mon âme de tous les côtés. Mon âme n'est qu'une plaie vive et sanglante. Mais Dieu soit béni. » Alors au fond, c'est comme s'il gravissait le calvaire. Et ce prêtre héroïque affronte d'autres difficultés qui menacent son œuvre. Il écrit à un ami, mais secrétaire, l'abbé Ruault, « Dieu merci, je ne me déconcerte pas. » Voilà l'exemple à suivre. Et plus que le gouvernement central, mais les autorités subalternes entravent son action. La révolution de 1830 s'était faite, on s'en souvient, contre le trône et l'autel, c'était l'expression, et le trône tient. Mais en province, l'anticléricalisme à la Voltaire inspire trop de conseils généraux, de municipalités, puis de comités d'instruction primaire. Cette guerre culmine de 1830 à 1833, sans jamais cesser tout à fait. Alors des instituteurs mutuels, là, qui sont plutôt l'école neutre, remplacent les frères en plusieurs villes. On se montre particulièrement pointilleux sur les nominations puis les mutations, et tout est prétexte à des brimades, des difficultés, qui reviennent continuellement. Le père de Lamennais réagit avec ténacité. Et puis arrive, tant au lieu, là, à un moment donné, se manifeste assez de bienveillance pour que soit rappelé à plus de modération certains des excités de Bretagne qui persécutent les frères. Là, il y a la loi Guizot sur l'enseignement primaire en 1833. Je vous en parle parce que ça a marqué beaucoup l'histoire là-bas, et nous sommes un peu dans des événements au Québec et à travers le monde, d'ailleurs, qui ressemblent beaucoup à ça. Là, la loi Guizot sur l'enseignement primaire, donc en 1833, marque un tournant dans la vie professionnelle des frères. Cette fois-ci, l'école primaire publique est définie communale et confessionnelle. Alors, la commune, c'est-à-dire le gouvernement, fournit le local, choisit les maîtres, qu'ils soient laïcs ou religieux, et c'est nommé par un comité supérieur. Ça les rétribue, on les rétribue, on les contrôle. L'instituteur donne l'instruction morale et religieuse. L'école privée n'est pas interdite, mais la plupart des frères deviennent communaux, comme on dit, avec des inconvénients auxquels on peut s'attendre. Quand l'administration est hostile, quand il y a un conflit entre la commune puis le comité supérieur. De toute façon, quand il était jeune prêtre, l'abbé de Lamennais se préoccupait aussi d'autre chose. Il se préoccupait de l'évangélisation lointaine. C'était un précurseur. On le voit bien dans un programme d'action pastorale qu'il a écrit. Je te ça un peu rapidement quand il était jeune. Il y a des intuitions prophétiques dans tout ça. Il avait écrit ça un soir de novembre 1807, donc il n'avait que 27 ans. Il n'est jamais sorti de la France, lui, mais ses disciples vont aller sur tous les continents. Je vous décris un peu les exploits de ses frères admirables. L'amiral de Rosamel, qui était ministre de la Marine, qui était responsable des colonies, demande au père de Lamennais de faire une fondation à la Guadeloupe. La Guadeloupe, vous savez où c'est. Alors, il lui faut 5 volontaires. Et puis, il dit, « Je veux qu'ils aillent librement et avec joie, » dit le père de Lamennais. En septembre 1837, les 60 frères, encore réunis à Plouermel, après la retraite, apprennent que leur supérieur a pris cet engagement pour la Guadeloupe. Pour combien d'années cette expatriation, demande l'un des frères. Et l'abbé de Lamennais dit pour toujours. Pour toujours. Je vous ai dit qu'il y avait 60 frères. Ben, il y en a 52 qui s'inscrivent pour partir pour toujours. Quel courage on avait dans ce temps-là, hein? Moi, ça m'émeut quand je lis des choses comme ça. Et le 10 décembre 1837, 5 frères quittent Brest pour la Basse-Terre en Guadeloupe qu'ils touchent le 7 février 1838. Et puis, ça leur a pris quoi? 2 mois. L'année suivante, des frères ouvrent l'école de Pointe-à-Pitre, tandis que 5 autres débarquent, eux, à la Martinique. Les débuts sont plus difficiles qu'on prévoyait et l'œuvre s'affermit pourtant et se développe. Et aux classes ordinaires, ben, les missionnaires ajoutent les catéchismes du soir aux adultes, les catéchismes aux esclaves sur les habitations. Et leur influence sur ces pauvres gens est telle qu'elle contribue grandement finalement à maintenir le calme à la Guadeloupe puis à limiter les désordres à la Martinique. Pourquoi? Parce que l'esclavage a été supprimé en 1848 puis il faut vraiment habituer ces gens à être libres. Et là, il y a 2 frères qui sont à Saint-Louis, au Sénégal, le 22 novembre 1841. Et puis, le succès des frères se confirme. Le gouverneur, qui est un chef exigeant et peu favorable à des instituteurs qui font partie de congrégations religieuses, doit pourtant s'incliner devant les résultats. Et après une inspection, le directeur de Saint-Louis avise Plouermel, en Bretagne, de la satisfaction du gouverneur. Et il précise, il a donné un magnifique volume à Alfred Dodds, l'élève dont nous étions le plus contents. Or, qui c'est ça, Alfred Dodds? C'est le futur général Dodds, qui n'a pas cessé de témoigner la plus vive reconnaissance à ses anciens maîtres, les frères de l'instruction chrétienne. Pas plus qu'aux Antilles, évidemment. Le lourd tribut payés à la fièvre jaune, ne brise l'élan missionnaire. Ils sont courageux. Ils meurent, mais ils sont courageux. D'autres fondations suivent la mort du père de Lamennais. On fonde à Dakar, en Guinée, à Conakry, etc., etc., etc. Et le collège secondaire de Saint-Louis, ouvert en 1884, c'est unique en Afrique occidentale française à cette époque, devient une véritable pépinière de cadres locaux. Ils fournissent des gens qui sont instruits pour administrer l'État. Et il y a 2 frères, finalement, qui vont jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon pour fonder Le climat est dur, hein. Ces îles sont froides. Il y en a qui vont en Guyane. Et en Guyane, comme aux Antilles, les adultes se pressent aux classes du soir. Hein. Le collège de Cayenne, confié aux frères en 1854, va se prospérer sous l'impulsion d'un ancien missionnaire de la Martinique. Ils vont à Tahiti. Ils sont fantastiques. Ils recouvrent un peu partout à travers l'Église des postes importants. Ils sont nombreux, finalement, et ils font un travail admirable. À un moment donné, je vous ai bien dit que les frères se répandent un peu partout. Et le père de Lamennais se montre favorable au recrutement dans les lieux éloignés, là, du recrutement de sujets créoles et de sujets noirs. Seule la mentalité de l'époque l'empêche d'établir un noviciat aux Antilles, hein, car il est à l'avant-garde. Et dans l'impossibilité d'employer aux îles les créoles qui sont formés à Ploermel, en France, il les utilise ailleurs. Et très efficacement. Et non content d'accueillir au noviciat plusieurs recrues sénégalaises, oui, les transports du Sénégal en France, il s'entend avec Mgr Cobez pour jeter les bases d'un institut indigène de frères enseignants en Afrique. Projet contrarié par les circonstances, il a fallu l'abandonner à ce moment-là. Ça prend du temps, hein, à comprendre le bon sens. C'est pas de sa faute. Mes écoles sont instituées pour faire connaître Jésus-Christ, dit-il. Et c'était au cours d'une audience au ministère de l'Instruction publique que M. de Salvande y présente au père de Lamennais un livre de lecture pour classe élémentaire. Il lui dit, « Monsieur l'abbé, vous seriez bien aimable de l'introduire dans vos écoles. » Et notre fondateur feuillette le volume. L'abbé de Lamennais dit, « Impossible, monsieur le ministre. Mes écoles sont instituées pour faire connaître Jésus-Christ, et ce livre ne cite même pas son nom. Faire connaître Jésus-Christ, faire connaître Jésus-Christ, et le faire aimer. Et exercer les jeunes à ce qu'on appelle la vertu. C'est quoi ça? Les exercer au bonheur, à la libération, à être libre. » Pas enchaîné par mille sottises. Mais quel moyen utiliser? Monsieur de Lamennais les emprunte à un manuel de Jean-Baptiste Lassalle, Saint Jean-Baptiste Lassalle, fondateur des frères des écoles chrétiennes, lui, qui s'appelle La conduite des écoles. Alors il exige une stricte application de ce livre dans les classes des frères de l'instruction chrétienne. La conduite des écoles recommande l'assistance quotidienne à la messe. C'était comme ça jusqu'à il n'y a pas longtemps dans nos collèges, même à Brébeuf. On fera en sorte que les écoliers l'entendent tous les jours, dit le texte. Et elle détermine les temps de modalité de la prière. Aussi, on prie beaucoup dans les classes à cette époque. On n'y prie plus maintenant. On priait. Je me souviens, dans mon enfance, on priait en classe. Et le père de Lamennais n'a pas besoin de ce livre, La conduite des écoles, pour savoir qu'une bonne catéchèse ne se réduit pas à la mémorisation d'un texte, ce dont se contentait dans ce temps-là l'école ordinaire. Il veut, lui, une explication intelligente et soignée. Et quant aux retraites d'élèves, là, il y attache une si grande importance qu'il les prêche lui-même volontiers. Je me souviens qu'au Collège Brébeuf, on avait toujours une retraite à l'entrée qui durait 3 jours. Qu'en est-il aujourd'hui, je me le demande. Il disait, « Je m'en vais à travers champs, fondant de nouvelles écoles et donnant des retraites à mes petits-enfants. Et tout cela fait mes délices. Les écoliers les aiment bien, ces retraites. Il dit, « Nos enfants ont une sainte envie de vous entendre. » C'est le directeur de l'école de Fougères qui dit ça. L'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures, voilà les matières que la loi Guizot porte au programme des écoles élémentaires. Eh bien, des parents désirent davantage. Alors, soit, dit M. de Lamennais, toujours prêt, lui, à s'adapter aux conditions mouvantes de la vie économique et sociale, et toujours prêt à faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail. C'est dire qu'ici et là, un enseignement général plus poussé et l'enseignement professionnel ne tarde pas à prolonger le cycle élémentaire. Alors, les fils d'ouvriers, les fils de marins, les fils de paysans, c'est à tous que s'intéresse le père de Lamennais. Et par souci d'économie, bien la maison mère vit autant que possible en autarcie. Les ateliers y sont nombreux. À deux reprises, le fondateur tente d'y implanter une école d'art et métier. Mais faute d'aide officielle, il se rabat sur un centre d'apprentissage qu'on devra supprimer au bout d'une quinzaine d'années. L'industrie locale se plaint de la concurrence, imaginez. C'est l'industrie locale qui empêche les frères d'instruire. En 1833, un journal informe ses lecteurs que M. de Lamennais commençait à faire enseigner l'hydrographie dans les communes voisines des côtes. Et c'est à partir de 1846, donc, surtout qu'Emploi Hermel, la ville de Ploi Hermel, inaugure un cours d'hydrographie, que ces initiatives se multiplient. Formé par un frère Bernardin, qui était un savant réalisateur de l'horloge astronomique de la maison mère, les frères d'une vingtaine d'écoles, pendant une heure ou deux, les soirs d'hiver, préparent même les marais à quoi? Au brevet de patron de pêche, au brevet de maître au cabotage, voire même au brevet de capitaine au long cours. Et dans une région à dominante agricole comme la Bretagne, le père de Lamennais estime qu'un fils de cultivateur, ce sont ses paroles, un fils de cultivateur doit être initié de bonne heure à ce qui regarde la culture du sol. Alors, si de trop maigres ressources lui interdisent de passer à l'exécution sur une large échelle, là, du moins, il encourage les initiatives intelligentes des frères, qui joignent à l'enseignement théorique la visite des fermes, l'expérimentation sur terrain à qui a cet effet, et ces mêmes encouragements, ben, le fondateur les étend aux colonies. Et dès lors, on entend Chateaubriand lui-même, qui, après avoir évoqué la fameuse œuvre agricole des moines, particulièrement des bénédictins et des cisterciens, dans son ouvrage de la civilisation chrétienne, il a ajouté, écoutez bien ça, Chateaubriand, une autre congrégation religieuse, l'Institut des Frères de l'Instruction Chrétienne, créé dans notre siècle, c'est-à-dire au 19e siècle, par l'abbé Jean-Marie de Lamennais, continue dignement la tradition des anciens couvents de ces moines. Alors, le fondateur lui-même visite constamment ses frères, d'abord à cheval, puis en voiture, dès 1825, ce qui, sur les grands chemins, permet la lecture et l'étude des dossiers. C'est étrange, hein? Il affirme passer les trois quarts de l'année hors de Ploi Hermel. Il dit « J'ai l'honneur d'être de tous les hommes de ce monde le plus ambulant. » Il y a d'humour. Le contact personnel lui paraît essentiel pour s'informer puis maintenir ses disciples dans les bonnes dispositions qu'ils ont reçues lors de leur retraite annuelle. Il y a la correspondance aussi qui complète les visites. Les réponses sont assez curieuses, je vais vous en citer deux. C'est celle d'un père qui est à la fois tendre et ferme, vous allez voir. Il relève les courages, puis il compatit. Mais c'est aussi, quand il le faut, être vraiment assez incisif dans la réprimande. Il y a un frère qui lui écrit, puis il y a une âme endolorie, comme on dit. Il lui dit, vous m'ouvrirez pleinement votre pauvre cœur blessé, et je verserai avec amour sur ses blessures l'huile, puis le baume. Mais sur un autre ton, il écrit à un autre frère, « Je vous dois la vérité, mon frère, et je vous la dirai jusqu'au bout, sans détour et sans autre ménagement que ceux qu'exige la charité. » Un homme intelligent. Alors, les dernières années, Jean-Marie de Lamennais, l'abbé Jean-Marie de Lamennais, ne s'était jamais ménagé. Une alerte sérieuse l'avertit brusquement. Son organisme se dérègle. Le 16 décembre 1847, c'est la paralysie qui l'immobilise au pied de l'autel, à Guingamp. Et là, rétabli, il reprend quand même la tâche. Mais il se fait aider davantage. 7 ans plus tard, 6 ans plus tard, en 1853, il se donne des assistants, mon conseil des ministres, comme il dit. À partir de 1857, donc, il y a des visiteurs qui vont inspecter les communautés et les classes, parce qu'il ne peut plus se déplacer, ça n'a plus de sens. En 1841, mais il a 71 ans, là, il tressaille d'une joie d'autant plus vive que certains, jadis, ont suspecté son orthodoxie, vous vous souvenez? Là, un bref une lettre, si vous voulez, de Pie IX, comble d'éloges l'Institut des Frères de l'Instruction Chrétienne et son fondateur. Alors, d'amples constructions vont transformer la maison mère. Ça proclame, d'une certaine façon, le développement de la congrégation. Et là, le 10 septembre 1856, l'évêque de Nantes consacre la vaste chapelle qui est dressée d'après les plans, écoutez bien ça, sous la surveillance de deux frères, les frères Fulbert et Cyprien. On va retrouver le frère Cyprien. Mais que d'épreuves encore, hein? Un décret malheureux de 1853 va réduire toute une catégorie de frères à la portion congrue. Là, Jean-Marie de Lamennais, l'abbé Lamennais de Lamennais, doit supprimer une quinzaine de petites écoles. Il doit limiter les admissions aux noviciats. C'est encore le gouvernement qui fait de la misère aux frères. Il y a pire. Son frère, ce cher abbé Félicité de Lamennais, qui meurt impénitent, le 27 février 1854. Ah, là, la douleur de l'abbé Jean-Marie est atroce. Le 28 juin suivant, à Lachenay, il célèbre le Saint-Sacrifice sur l'autel où 20 ans auparavant son malheureux frère disait sa dernière messe. Sortant de la chapelle, son regard fixe une fenêtre au volet clos. Il saisit d'un tremblement puis s'écrie « Félie ». Il l'appelait comme ça, Félicité. « Félie, Félie, où es-tu ? » Puis s'écroule sur le gazon. Il entraîne dans sa chute le frère qu'il soutenait. Par l'acte de dernière volonté du 2 février 1843, le fondateur, Jean-Marie de Lamennais, avait réglé sa succession. Il y a un petit codicille, en 1857, qui désigne les 5 frères qui, à sa mort, devront prendre en main, comme il l'écrit, l'administration de l'Institut. Ils devront former le conseil et nommer pour la première fois et pour 3 ans le supérieur général. Cette mort, il s'y est préparé. Il ne la craint pas. Mais une attaque d'apoplexie de Guingamp lui avait, à ce moment-là, on lui avait demandé « Avez-vous eu peur ?» À ce moment-là, il répond, c'est magnifique, « Pas plus que le jour où je me suis présenté pour la prêtrise. Quand on me dira « Jean-Marie, Jean-Marie !» Il dit, je répondrai, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Ça résume, au fond, toute la vie du vénérable Jean-Marie de Lamennais. Il a toujours été prêt à faire ce que Dieu voulait de lui. Il a toujours été prêt à conduire ses frères en très grand nombre, en très, très grand nombre, au-devant du Seigneur qui les appelait. Il n'a jamais cessé de penser au bien qu'il pouvait faire. Il y avait, au moment de sa mort, près de 1000 frères. Ils étaient dans 350 écoles, peut-être. Ils avaient plus de 30 000 élèves. Ils avaient une 60aine de novices. C'est une œuvre considérable. Qu'est-ce que devenir frère? Il en va de la vie consacrée, comme de la foi, comme de l'amour. On n'aime pas une fois pour toutes. L'amour se nourrit dans la fidélité des jours. Être chrétien, ce n'est pas être baptisé. Être chrétien, c'est vivre son baptême dans la longue suite des jours. Être frère, cela n'est pas un produit magique des vœux. Être frère, c'est le devenir en parcourant les chemins et les années de la grâce de Dieu. À la fin d'octobre 1859, M. de Lamennais donnait des signes d'extrême lassitude. Son potentiel baissait visiblement et sortait plus. Il se contentait d'une promenade dans les couloirs au bras d'un frère. Ses pieds raclaient le plancher, sa mémoire s'embrouillait, puis il avait une peine inouïe à réciter le Fils divin. La récitation du bréviaire était devenue le dialogue de choix, qui passait avant tout le reste. On avait de plus en plus l'impression, paraît-il, que l'histoire extérieure du frère se détachait de son histoire intérieure. Là. Il mourait à tout ce qui avait fait sa passion d'agir, et il appartenait à un autre règne, un autre monde. Le jour de Pâques, 1859, il dit sa dernière messe. Il paraît tout heureux dans ses ruines. Il est comme défait. Le 30 septembre, une nouvelle attaque de paralysie. Les frères s'agitent. On appelle le médecin. Il dit au père qu'il est condamné. Il est content de cette franchise. Il n'aime pas les silences compassés. Il n'aime pas ça. Pourquoi tant de mystère, dit-il? Je vois bien que c'est fini. Faut me le dire sans détour. Sur la table de chevet, qu'on avait coutume de voir encombrée de livres, il ne reste plus que quoi? L'imitation de Jésus-Christ dont je vous ai parlé il y a quelques jours en vous parlant du bienheureux Thomas à Kempis. La cassette est disponible d'ailleurs. Il y avait aussi son catéchisme de première communion, imaginez. Que pourrait lui apprendre la science des hommes maintenant? C'est fini. C'est si simple de mourir quand on a ressenti la vie comme une éternité. Il voudrait que ce geste soit aussi naturel que celui d'un enfant, pas d'éclat, ni d'aveux solennels, seulement un calme émerveillement devant ce qui arrive. Mais voici que ces 850 fils se détachent sur un rideau étincelant, prêts à se lever. Il les contemple, il les juge. Tout ne serait pas consommé s'il ne leur avouait ce dont ils tremblent pour eux devant l'éternité. Alors au frère Cyprien, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il dit cette circulaire qui sera adressée à tous et à chacun la veille de sa mort. Mes très chers frères, il est peu d'enseignements aussi profitables à l'œuvre du salut que celui que nous donne le temps. Lorsque nous venons à considérer la rapidité avec laquelle il s'écoule, sachons en profiter. Chaque année qui finit est un grand pas de plus vers notre éternité. Et sans aucun doute, celle qui va commencer sera la dernière pour plusieurs d'entre nous. Mais qui est prêt? Où en est l'affaire de notre salut? Quel amendement les années passées ont-elles apporté à notre conduite? Sommes-nous plus obéissants? Plus mortifiés, plus à Dieu dans l'amour, moins à nous-mêmes et à notre amour propre? Quel est notre zèle et notre dévouement pour le salut des âmes? En un mot, quel profit avons-nous tiré de nos exercices de piété, de la fréquente réception des sacrements et des grâces sans nombre dont Dieu ne cesse de nous favoriser? À des questions si graves, que répond notre conscience? Hélas, tout ou presque tout est à faire pour l'éternité. Cependant, nous touchons au terme et nous dormons peut-être tranquilles, ce qui serait le comble du malheur dans l'état déplorable de notre tiédeur. Oh, je vous dirai, en empruntant les paroles de l'apôtre, il est temps de vous réveiller de votre sommeil. Le Seigneur est proche. J'ai la douce confiance que, docile à la voix de ma paternelle sollicitude, qui peut-être se fait entendre pour la dernière fois, vous allez vous lever et marcher avec une nouvelle ardeur dans les sentiers bénis de la ferveur et de la régularité, en vous adonnant avec plus de courage que jamais à la pratique de vos règles et des vertus propres à votre sainte profession. Les temps sont mauvais. Priez. Et consolez l'Église par la bonne odeur de toutes les vertus. Excitez-vous mutuellement à employer désormais les jours qui vous restent à semer beaucoup afin de recueillir abondamment dans le ciel. Pour atteindre ce terme de notre espérance commune, affermissez-vous de plus en plus dans la grâce, dans la paix, dans la charité et dans l'humilité de notre Seigneur. Je ne vais pas vous le dissimuler, mes très chers frères. Mes forces baissent sensiblement. Continuez de prier pour moi. Après Dieu et la bienheureuse Vierge Marie, ma pensée la plus chère est pour vous. Soyez attachés de cœur et d'âme à la Sainte Église et à votre institut. Béni soit à jamais Jésus et Marie Immaculée. Et dans la nuit du 21 décembre, une nouvelle crise se déclare. Alors inquiets, les frères proposent le sacrement du passage, comme on dit. Vous voulez bien, n'est-ce pas, cher père, qu'on vous donne l'extrême onction? Alors ce bon vieillard se redresse et la réponse jaillit dans une émotion heureuse. Oh oui, mes enfants. Alors on lui demande sa bénédiction. Et le père esquisse un geste de sa main d'ivoire, qui est figé dans l'impuissance. Puis apercevant au pied du lit le frère Cyprien, il lui dit, « Mon fils, achève mon œuvre. » Et dans l'après-midi, le curé de Ploermel vient lui apporter le viatique, la communion. « Oh, merci, merci, mes enfants. Combien je vous donne de peine. Et comme je vous dois de reconnaissance à tous. Priez, mes enfants, priez. » Ce sont les dernières paroles du père de Lamennais. Celui qui a connu tant de luttes durant sa longue vie garde encore la mémoire du petit geste d'amour. Il est probable que toute sa vie donnée ne pèse pas plus lourd à ses yeux, déjà plein d'éternité, que la douceur du regard de ses fils sur sa désolation. Il a un spasme de quelques minutes. L'horloge sonne 10 heures. Il s'endort pour rencontrer celui qu'il aime. Celui qu'il aime par-dessus tout. Jésus, qu'il a servi sans arrêt en établissant cette congrégation qui, ici au Québec, nous a rendu bien plus de services qu'on ose bien le croire, l'admettre et surtout le reconnaître. Au nom de tous ceux qui comprennent le bon sens, je salue les frères de l'instruction chrétienne pour tout le bien qu'ils ont fait depuis 110 ans. Tout n'est pas parfait. Mais la générosité de leur cœur était là. Me reconnais-tu, Père, au moment où je prie? Reconnais-tu ton Fils? Je voudrais te parler avec un cœur filial comme autrefois, Jésus, et ma prière voudrait être plus que l'hommage à un Dieu souverain, plus que l'adoration de l'humble créature due à son Créateur. Elle voudrait crier la joie et la fierté de t'avoir comme Père, répondre à la tendresse, à la sollicitude de ton cœur paternel. Elle voudrait ôter la trop grande distance qui subsiste entre nous, entrer profondément dans ton intimité comme tu le désires. Puisque tu as voulu une paternité entière et sans réserve, tu veux une prière entièrement filiale. Je voudrais te l'offrir. Et dans l'abandon complet, la confiance éperdue et la reconnaissance, je voudrais murmurer ton simple nom de Père et te livrer mon âme. L'abbé Jean-Marie de Lamennais a livré son âme à Dieu.